Alors, d'abord, félicitations à vous qui êtes venus malgré le froid, un froid de loup. Et puis, bonne année à chacun d'entre vous. Donc, plein de bénédictions pour cette année. Alors, la bénédiction, je ne sais pas comment on pourrait résumer. C'est, je dirais, plein de bonnes surprises, parce que la bénédiction de Dieu, c'est une source de nouveauté, de vie, d'invention. Donc, plein de bonnes surprises au cours de cette année 2010 pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Alors peut-être que c'est un peu dur de commencer directement la nouvelle année avec un texte de l'Apocalypse, parce que, bon, on est en pleine période de crise, paraît-il. Alors on commence par l'Apocalypse pour vous souhaiter la bonne année. Peut-être que c'est quand même un peu dur, peut-être, de notre part. Mais, bon, moi je dirais que par définition, c'est encore de l'Évangile, c'est forcément une bonne nouvelle. Donc commençons cette nouvelle année avec une bonne nouvelle dite autrement. Alors, on est content de se retrouver ensemble encore pour travailler sur la Bible, ensemble, catholiques et protestants, pour cette nouvelle année.
Alors justement, avec l'Apocalypse, l'un des thèmes principaux de ce livre, un petit peu obscur, un petit peu différent de tous ceux que nous avons parcourus jusqu'à maintenant, l'un des thèmes, c'est « Heureux ceux qui resteront fidèles ». Donc, bravo et merci à tous ceux qui sont là depuis l'an dernier, depuis le début de l'année dernière, et qui continuent sur ce thème « Guerre et paix ». Au fond, on a commencé l'année avec la Genèse, et c'est pas mal de la poursuivre ou de la recommencer avec l'Apocalypse, parce que nous avons là, j'allais dire, l'alpha et l'oméga de nos Bibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre thème « Guerre et paix » dans la Bible. Encore une fois, on avait vu au début que, bien entendu, l'un sans l'autre, la définition de la paix, c'était un temps de non-guerre, et la guerre était la rupture du temps de paix. Et on part d'une certaine façon avec l'alpha, qui est la paix, avec la création, avec toutes les beautés de cette création. Et puis, malheureusement, on a vu assez rapidement que, partant de la Genèse 1, nous découvrions la violence avec Caïn et Abel. Alors, nous voilà arrivés à la fin de, je dirais, du parcours biblique, dans la mesure où l'Apocalypse nous permet de voir ce qu'il en est, ce qu'il en est plutôt de guerre, d'ailleurs, et nous allons essayer de comprendre pourquoi ces temps apocalyptiques, qui, encore une fois, ces temps de dévoilement, ces temps de révélation, rédigés à la fin du 1er siècle, annoncent malgré tout la paix, le temps du Seigneur, le jour du Seigneur. Donc, voilà, nous aurons ainsi fait la boucle. Et la dernière fois, nous nous étions vus avec Isaïe, où loup et agneau vivront ensemble. D'une certaine façon, il est bien de voir en parallèle à ce texte qui était magnifique, qui était très prometteur, avec cette racine de Jessé. Eh bien, nous allons voir ce qui arrive justement au surgeon, ce qui est promis. Et du coup, la prochaine fois, nous pourrons retomber sur une prophétie avec la branche de l'amandier, qui est le deuxième versant de cette paix. Alors, rentrons à fond dans la guerre, rentrons à fond dans ce climat un peu étonnant, et puis nous allons voir quand même qu'au bout du chemin, il y a toujours l'espérance.
Alors, c'est vrai que l'Apocalypse, bon, aujourd'hui en français, c'est synonyme de catastrophe, en fait. Mais comme tu le rappelais, c'est vrai que Apocalypse, en fait, je trouve que c'est malhonnête de l'avoir gardé tel quel, parce que c'est un mot grec finalement assez banal qui veut dire un dévoilement, une révélation, donc le dévoilement d'un secret finalement, le dévoilement de la vérité profonde. Alors, c'est déjà, je crois, vraiment une bonne nouvelle que de connaître la vérité profonde, qu'elle nous soit dévoilée, et ça va vraiment être le thème de notre chapitre, du chapitre 6 que l'on va lire. Car si l'on connaît la vérité profonde, on est plus à même, ça donne une liberté, c'est-à-dire qu'on est plus à même de se décider par soi-même et de comprendre les choses. Alors, C'est vrai que je crois qu'il y a là déjà quelque chose qui devrait être de l'ordre de la bonne nouvelle du salut de Dieu. Simplement, au lieu d'être exprimé comme dans les lettres de Paul, par exemple, que nous avons lues l'année dernière sous forme relativement comme un cours philosophique, ou alors lors de conseils très concrets qui sont donnés dans des circonstances concrètes, là, c'est un mode narratif, c'est une façon de s'exprimer qui est de l'ordre de la science fantaisie, on dirait aujourd'hui. Il y a des tas de romans, moi dont je suis d'ailleurs assez friand, avec des dragons, avec des extraterrestres, comme il y a un film assez intéressant à voir, d'ailleurs, même au niveau théologique, Avatar, qui, bon, c'est une... Ils savent très bien, quand ils écrivent ça, qu'il n'y a pas des grands hommes bleus qui font 3 mètres de haut. Mais à travers ce film, à travers ce scénario, l'auteur du film essaye de dire quelque chose. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il essaye de nous dire quelque chose. Et finalement, je ne crois pas qu'il y ait une langue cachée, si vous voulez, dedans. Même si pour nous, c'est relativement énigmatique. Quand on lit ce texte, on ne comprend pas grand-chose. Mais je crois que c'est plus comme des hiéroglyphes, finalement. Les hiéroglyphes égyptiens, c'est des petits personnages, des petits objets, des petites mains, des petites bouches qui sont les unes après les autres. Et pour nous, c'est illisible, finalement. Enfin, sauf ceux qui ont la chance de connaître l'égyptien ancien, mais sinon, pour les autres, on ne comprend rien. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a marqué des chevaliers, des je ne sais pas quoi, des trucs, des machins un peu bizarres, mais... Il faut comprendre finalement ce qui est derrière, ce que ça veut dire. Et donc, ce n'était pas un langage caché, simplement c'est une langue que nous avons peut-être un peu oubliée. Donc du coup, ce n'est pas forcément complètement facile à lire, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est la première difficulté. Ça demande une culture biblique qui n'est pas évidente à avoir, qui est un peu plus facile pour nous, parce qu'on a un ordinateur, donc on dit machin, tiens, eh ben on va retrouver que c'est Ézéchiel, on va retrouver ceci, on va retrouver machin, dans l'Ancien Testament. Et du coup, les pièces du puzzle s'assemblent un petit peu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un langage très imagé. Alors, on peut chercher ce qu'il y a derrière ces images, oui, mais quand même, même avec les images, ça reste relativement énigmatique. Alors, de quoi ça parle? Alors, il y a des gens qui disent, ça parle du début du IIe siècle, ça parle de Néron, ça parle de telle persécution, alors on reconnaît dans tel machin, tel personnage, tel événement. Peut-être oui, mais moi, j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes. À mon avis, c'est un livre qui parle de nous, en fait, comme le reste de la Bible, bien souvent, mais plutôt plus comme la Genèse parle de nous, si vous voulez. Parce que quand on a l'histoire de David ou de, je ne sais pas qui, moi, de Nabucodonosor, on sait qu'il y a eu monsieur Nabucodonosor qui a existé. Donc, à l'occasion de Nabucodonosor, on essaye de nous faire une leçon sur le sens même de la vie et sur le salut de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, à mon avis, c'est plutôt comme la Genèse, c'est un conte théologique qui nous parle du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, en fait. Et donc, ça, je crois que c'est quand même une clé de lecture importante. Par définition, l'Évangile, bon, ça nous concerne directement. Le salut de Dieu concerne tout homme, toute femme. Donc, on ne parle pas d'un événement passé ou d'un événement futur. On parle du présent, du salut de Dieu qui se développe dans notre être, dans notre vie. Donc, faut pas essayer de compter, tiens, il y a 2000 ans, machin, quelle est la date de la fin du monde ? Aujourd'hui, nous sommes dans la fin du monde. Nous sommes dans l'ère de la fin des temps, par définition, puisque Jésus est le Christ. Donc, nous sommes dans la fin des temps. Bon, c'est ce que Jean lui-même, d'ailleurs, dit dans Jean 4. Hein. L'heure vient et elle est déjà là, en fait. Où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, comment il parle bien de la fin des temps. La fin des temps, c'est en même temps déjà aujourd'hui et en même temps, c'est encore à devenir. C'est encore en développement, en déploiement, si vous voulez, mais on est dans la fin des temps dont parlent ces textes. Donc ça parle d'aujourd'hui, ça parle pas de... Il ne s'agit pas de calculer si la fin du monde sera une météorite qui va tomber en telle année, puis que machin, il y aura exactement 144 000 élus, non. À mon avis, ça parle de notre être, ça parle de notre société, ça parle de notre Église, ça parle de nous, en fait. Et donc, il faut aussi d'interpréter en quoi ça parle de nous. Et ça nous dit que l'âge d'or, en fait, il est plutôt à venir, en fait. Et je crois qu'on le voit à la fin de l'Apocalypse, quand même, il y a une fin qui se termine bien, si vous voulez. Donc, en définitive, c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc, il faut voir dedans, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un éboulement, quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui s'effrite, finalement, de quelque chose qui tourne mal, mais c'est quand même, en définitive, pour la construction d'une vie véritable. Voilà. Et donc, c'est un monde qui s'effrite, qui s'éboule, mais c'est un monde qui est en conversion, finalement. Comme nous sommes appelés à être en conversion, c'est comme Jésus nous dit, voilà, le royaume s'est approché, le royaume est en train de venir, ben c'est ça que nous dit ce texte de l'Apocalypse. Il le dit autrement, si vous voulez. Mais il le dit aussi, et donc il y a forcément une bonne nouvelle qui nous concerne directement. Mais ça, je dirais que c'est alors on dirait en patois d'église, un principe d'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire c'est un principe d'interprétation de la Bible. On peut comprendre tous les textes de la Bible, en particulier du Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Tous les textes, on peut les comprendre absolument de 1 million de façons, mais il y a quand même un critère, c'est qu'il faut que ça reste une bonne nouvelle, un évangile. C'est-à-dire qu'il faut que ça annonce le salut d'un Dieu d'amour qu'il nous est donné en Jésus-Christ. Alors on peut tordre les choses dans tous les sens, ces textes se prêtent à plein d'interprétations différentes, mais forcément, il faut y lire les actes d'un Dieu d'amour qui se révèle en Jésus-Christ. Alors quand on regarde sur Internet, parce que souvent maintenant on travaille avec nos bouquins, mais on travaille aussi en demandant sur Internet un peu ce qui s'est dit, ben là ça va faire dresser les cheveux sur la tête. 99% des pages nous disent des horreurs, nous annoncent des choses absolument terribles. Si vous ne vous convertissez pas, vous allez être égorgé par Dieu, quoi, en gros. Voilà. Alors, ça, à mon avis, c'est typiquement l'interprétation que l'on ne peut pas avoir. Ou alors, il faut me montrer Jésus-Christ égorger un enfant parce qu'il a fait une bêtise, ou je ne sais pas quoi. À ce moment-là, je dirais, bah oui, d'accord, je m'étais trompé. En fait, le vrai Dieu que nous révèle Jésus-Christ, on le voit à travers ses actes, c'est d'égorger un enfant parce qu'il apprend mal sa leçon. Où il met les coudes sur la table en mangeant, ce qui est vraiment absolument inadmissible. Donc, voilà, il faut y arriver à trouver ce Jésus-Christ qui s'approche de la femme adultère et qui la relève. Il faut trouver le Jésus-Christ qui va manger à la table du pharisien, trop religieux, sectaire, un peu étroit, machin. Il faut trouver ce visage de Dieu qu'on voit en Jésus-Christ, qui annonce le berger qui va chercher la brebis perdue. Il faut trouver ce visage-là de Dieu dans l'Apocalypse.
Oui, alors effectivement, pour rebondir sur cette histoire de réception de l'Apocalypse, il y a un certain nombre de clés à posséder. La clé essentielle étant bien sûr le Christ en son incarnation. Je pense qu'on peut lire l'Apocalypse dans tous les sens et on peut surtout le lire à l'envers, comme une prophétie de malheur. C'est exactement l'inverse. Ce que révèle l'Apocalypse comme révélation, c'est que l'incarnation du Christ est ce temps absolument, je dirais, absolu de l'histoire, duquel tout procède, y compris les événements cosmiques, naturellement, de la création, mais aussi les événements supranaturels. C'est-à-dire qu'un certain nombre de signes découlent de cette incarnation et de cet agneau immolé dont il est souvent question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a également, on rentre là dans un genre littéraire, qui est l'Apocalypse, qui ne correspond d'ailleurs qu'à 2 livres de la Bible, plutôt du côté de Daniel et plutôt du côté de l'Apocalypse. Ce genre littéraire, un genre tout à fait juif, qui s'est développé entre le 2e siècle avant et le 2e siècle après Jésus-Christ, et qui a donné lieu à cette littérature tout à fait étonnante, il faut savoir que la canonicité de ces textes n'a pas du tout été évidente. Et lorsqu'on lit, par exemple, au début du 4e siècle, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, l'autorité de l'Apocalypse est vraiment discutée. Et d'ailleurs, Eusèbe lui-même finit par l'arranger dans les apocryphes. Ce qui permet d'ailleurs, actuellement paraissent un certain nombre d'ouvrages sur les apocryphes. Ne prenons pas les textes apocryphes pour des délires parfaitement hérétiques et athées ou je ne sais quoi. C'est une littérature tout à fait noble, une littérature chrétienne, une littérature qui s'est développée dans le sillage de nos textes et qui, pour un certain nombre de raisons, n'a pas été retenue canoniquement. Mais ça n'en fait pas des textes diaboliques ou je ne sais quoi. Simplement, c'est une autre littérature. Eh bien, le livre de l'Apocalypse, on a failli en procéder parce qu'il a un vocabulaire tout à fait spécifique, une catégorie spécifique, et que certains auteurs, notamment les pères grecs, n'en ont pas reconnu la catholicité, je dirais, le côté universel. Alors voilà un petit peu, je dirais, l'histoire de ce texte, qui a été assez malmené au premier siècle chrétien. Mais ensuite, il y a eu notamment un certain nombre de commentaires. Et c'est surtout au IIIe siècle qu'un commentaire latin a développé donc l'Apocalypse. Et c'est en fait, comme souvent, le commentaire qui a eu un énorme succès jusqu'à irriguer tout le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge. Et bien entendu, jusqu'à parvenir jusqu'à nous par les artistes, par toute une littérature, par toute une sculpture et surtout une peinture. Donc évidemment, lorsque vous allez lire l'Apocalypse, vous allez d'abord reconnaître vos quatre cavaliers avec leurs chevaux de couleur. Vous allez reconnaître un certain nombre de scènes apocalyptiques, entre guillemets, donc qui revêtent les caractéristiques de ce livre. Mais en fait, vous êtes encore une fois dans une autre façon de dire la bonne nouvelle. Donc encore une fois, une façon certainement plus ésotérique. Plus complexe aussi, mais qui a quelque chose à nous dire. Alors, ce qui nous intéressera, c'est à la fois la culture, bien sûr, de ces textes, mais surtout la spiritualité qu'elle peut nous apporter, car elle existe, et une spiritualité positive, non pas une crainte, une peur. L'évangile du jour nous disait « N'ayez pas peur ». Je crois que l'Apocalypse n'est pas faite pour nous faire peur. Elle est faite pour nous dire autrement et pour répondre à une question à laquelle nous allons répondre après avoir lu le texte tous ensemble, la question étant, qu'en est-il dans notre monde où l'injustice, la guerre, le malheur, les maladies, les virus, H1N1, tout ce qu'on veut, enfin bon, tout ce qui fait toutes les mauvaises nouvelles du journal de 20 heures, qu'en est-il de la justice de Dieu? Et qu'en est-il? Qu'est-ce qui fait que tous ceux qui se proclament chrétiens, surtout dans ces siècles-là, ou à partir de ces siècles-là, sont plutôt apparemment mal payés de proclamer le Christ et en général se prennent insultes, railleries, persécutions, et c'est plutôt pas ce qui enrichit le plus. En général, quand on nous dit « Ah, vous avez choisi des métiers... » en général, les gens nous disent « Ah, c'est pas pour l'argent que vous avez choisi ce métier. » Comme on répond, ça se saurait. Mais il y a un peu cette idée-là. Cette idée, au fond, pourquoi sur Terre, pourquoi dans le monde, professer, pratiquer, vouloir être chrétien, ne donne pas la plus grande des justices, la plus grande prospérité, la plus grande, etc. Alors, bien entendu que tous nos textes y répondent, de l'alpha à l'oméga de la Bible, parce que nous sommes dans une autre logique, dans une autre... Mais l'Apocalypse va rentrer directement aussi dans tous les mots et essayer de trouver, à travers cette histoire tumultueuse de guerre, le sens de Dieu et, finalement, la vérité qui l'emporte au final, est l'agneau immolé qui récompense les justes. Donc il y a un certain nombre de questions de cet ordre.
Alors qu'est-ce qui peut nous lire ce texte? Je ne sais pas s'il y a... Vous voulez venir ici, peut-être ça sera mieux. Je vais laisser ma place. Merci.
Quand il ouvrit le deuxième... Ah non, en haut. Alors je vis, quand l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, Et j'entendis un des quatre animaux dire avec une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis. Et voici un cheval blanc. Le cavalier avait un arc. Il lui fut donné une couronne, et il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième animal dire, « Viens !» Alors sortit un autre cheval, rouge feu, et à son cavalier, il fut donné de ravir la paix de la terre, afin que les gens s'entr'égorgent, et il lui fut donné une grande épée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal dire « Viens !» et je vis. Et voici un cheval noir. Son cavalier tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix du milieu des quatre animaux qui disait « Une mesure de blé, un denier. Trois mesures d'orge, un denier. Et l'huile et le vin ne les gâchent pas. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis une voix venant du quatrième animal disant « Viens !» et je vis. Et voici un cheval verdâtre. Son cavalier se nommait la mort, et l'Hadès le suivait. Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre de tuer par l'épée, par la famine, par la maladie mortelle et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel de l'encens les âmes des égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils lui rendaient. Et ils clamèrent d'une grande voix, « Jusque à quand, ô Maître, ô Saint et Véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ?» À chacun d'eux fut remise une robe blanche, et il leur fut dit de se reposer encore un peu, le temps que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, ceux qui doivent aussi être tués comme eux. Et je vis. Et quand il ouvrit le sixième sceau, survint un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre comme un figuier secoué par un grand vent jette ses figues. Le ciel fut retiré comme un volume qu'on enroule et toute montagne, toute île furent enlevées de leur lieu. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tout esclave et tout affranchi, se cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de leur colère, et qui donc peut encore tenir debout ?»
Un grand merci pour cette belle page qui se termine avec cette question voilà, qui nous interpelle vraiment, voilà, qui peut tenir debout. Alors peut-être qu'il faut résumer le début du texte, parce qu'on parle donc des quatre animaux, les quatre êtres vivants. Alors c'est juste au chapitre avant, en fait, hein. Alors ces quatre êtres vivants, ça rappelle un peu une prophétie d'Ézéchiel, une vision d'Ézéchiel aussi, avec... On les connaît en fait bien, ces quatre figures, parce qu'on les voit très souvent sculptées dans les églises, puisque ça a été repris comme les quatre évangélistes, en fait. Alors, ces prophéties préexistaient, alors ils se sont dit, comme ces quatre bêtes, elles forment, en fait, c'est des sortes de chérubins dans Ézéchiel, et c'est donc des anges... Des anges qui gardent le trône céleste de Dieu, qui sont là pour chanter la louange de Dieu, pour garder un peu la demeure, le palais royal finalement, garder le paradis. On les voit garder le paradis avec une épée flamboyante dans la Genèse, je crois. Et on voit dans Ézéchiel ces quatre êtres fantastiques. Alors ils ont plein d'ailes, plein d'yeux partout, et ils ont des figures qu'on connaît. Donc il y a On les voit dans cette histoire. Il y a le premier, c'est un lion. Alors on l'attribue en général à Saint Marc parce que ça commence dans le désert. L'évangile selon Marc commence dans le désert. Ensuite, il y a le taureau. On l'attribue en général à Matthieu parce que Matthieu, ça commence dans... Non, c'est à Luc, c'est plutôt Luc, je crois, parce que ça commence avec Zacharie dans le temple de Jérusalem ou de je ne sais pas où. Oui, je pense Jérusalem. Mmh. Avec les sacrifices, donc c'est attribué à Luc. Ensuite, eh bien, il a une face d'homme. On l'attribue en général à Matthieu parce que ça commence par la généalogie humaine du Christ. Et puis le dernier, bien sûr, c'est l'aigle, parce que comme ça commence par le prologue de Jean avec des hauteurs absolument incroyables, on appelle Jean l'aigle mystique ou l'aigle de Patmos. Donc ça, un peu, c'est... Bon, il fallait coller les quatre évangiles avec ces quatre bêtes, finalement, hein, c'est d'Ézéchiel. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, là, entre Ézéchiel et l'Apocalypse. Il y a vraiment une reprise. Et c'est donc des anges qui gardent le trône de Dieu, qui chantent sa gloire. Et c'est ça, finalement, que l'on voit intervenir tout au long de ce texte pour présider à l'ouverture des sceaux, donc à ce dévoilement de la réalité profonde. Parce qu'en fait, il y a un rouleau qui comprend la vérité ultime, si je puis dire, qui comprend l'évangile, la clé du salut, finalement, je pourrais dire. Hein. Et donc, ces anges, ils vont nous aider à briser les sceaux, ou bien à les ouvrir, en fait, et à ce que l'on puisse avoir accès à cette connaissance. Donc, il y a là quelque chose qui est très... Bon, en fait, oui, une bonne nouvelle, un service, un commencement de salut, de nous donner accès à ce salut qui est symbolisé par le rouleau. Alors, les anges, bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait des bêtes ailées, et on peut toujours attendre de voir arriver un chérubin avec ses, je ne sais pas combien, 6 paires d'ailes, les yeux partout, les têtes de je ne sais comment. Non, c'est... Là aussi, hein, quand on dit un ange, c'est un messager de Dieu, donc Dieu se révèle par la parole d'un frère, d'une sœur, il se révèle dans l'Écriture, quand on la lit avec un esprit de... avec le Saint-Esprit, elle se... Voilà, Dieu peut se dire peut-être directement dans le cœur, par le Saint-Esprit aussi, dans la prière. Voilà, donc des anges, il y en a toutes sortes, et j'allais dire, vous en êtes un autre, si je peux dire. C'est ce que dit Paul, hein, il dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, parce que ça peut bien vous arriver d'accueillir un ange en faisant cela. Vous voyez, donc il dit bien, oui, il dit une réalité profonde, c'est que la vérité peut venir ainsi. Alors, je ne sais pas, on commence peut-être par le texte ou
oui.
choses
à... un dernier mot. Donc, il y a les quatre, en effet, hein, les quatre animaux. Quatre points cardinaux, facile, hein, les quatre éléments, quatre, un chiffre qu'on retient bien. Il y a un autre chiffre qu'il faut lui additionner, c'est 3, hein, la Trinité. Et donc, 4 plus 3, 7. Et donc, à partir de ça, vous avez 7 sceaux. Qu'il faut briser. Et là, on comprend que le livre, il est complet, puisqu'il faut briser les sceaux pour en lire le contenu. Et puis, vous avez 7 trompettes. Voilà. Donc, des septénaires. Et ça, c'est assez important, parce que on comprend aussi, non pas qu'il s'agit de code, mais qu'il s'agit bien de rythme. C'est-à-dire que tout ça a un sens et qu'il ne faut pas vouloir à tout prix comptabiliser les cataclysmes, les je ne sais quoi, mais qu'il y a un rythme. Et ce rythme, on le retrouve régulièrement, 4 plus 3. Et donc, bien sûr, on va avoir les 4 premiers sceaux avec 4 chevaux de couleurs différentes. Et puis après, les derniers sceaux correspondront à autre chose. Donc il y a un véritable rythme. C'est, encore une fois, on est dans un... C'est comme dans la Genèse, comme disait Marc tout à l'heure. On est dans un style littéraire, dans un style de texte où il faut rentrer dans tout un rythme qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de nos récits, de nos narrations, qui est un autre style. Donc il faut rentrer dans cette poésie abrupte, dure, violente, mais en même temps pleine d'un véritable souffle. Donc on prend notre souffle et on y va.
Oui, donc ce 7, moi, c'est intéressant ce que tu viens de dire autour du 7 qui est du 4 plus 3, c'est-à-dire, voilà, ça rappelle la création de la Genèse en 7 jours. Donc la création bénie, c'est dans le 7, c'est donc du 4 de la terre, quoi, de notre vie en ce monde, qui reçoit le 3 de la divinité, de Dieu. Et donc c'est bien une sorte de fusion, c'est vraiment pas une opposition radicale entre le spirituel et le matériel, mais c'est l'idée de que notre vie en ce monde, notre vie, soit bénie par Dieu. Voilà, c'est une bénédiction qui vient donner un autre sens, qui vient donner une vie nouvelle à la vie en ce monde. Et je crois que c'est ça que l'on va voir dans ce texte, qui va révéler l'invisible du 3 finalement, alors que le 4 est tellement visible, important, et ce qui arrive finalement quand on est dans une création qui se passe ou qui se prend pour Dieu, quoi. Qui se passe de Dieu ou qui se prend pour Dieu. Alors je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Alors déjà regarder, c'est vrai que déjà c'est une bonne idée, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, de regarder, il y a une sorte là d'attente, hein. Et alors cet agneau, comme tu le disais, ben, c'est le Christ. Alors, c'est le Christ dans l'histoire, c'est le Christ historique. Jésus de Nazareth, on connaît les dates, il est né en 5 avant Jésus-Christ, paraît-il, si je puis dire. Et il serait mort en 30-33, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment un personnage historique, c'est clair. Ça, je veux dire, c'est irréfutable. Même si on trouve que Jésus-Christ est nul et pas intéressant, il a quand même un personnage historique qui a une importance considérable. Mais cet agneau, et c'est peut-être là l'intérêt du sens figuré, c'est que c'est aussi ce qui est christique en nous, ce qui est christique dans l'autre. Et je parlais des anges que nous pouvons être les uns pour les autres. Donc il y a du christique. Oui, dans tel frère, telle sœur, à tel moment, il a une parole pour nous qui peut avoir l'effet de révélation, l'effet christique finalement, l'effet de l'agneau qui va nous ouvrir à découvrir une réalité profonde que nous ne voyons pas, qui est passée à côté du sens profond de la vie, finalement. Oui. Un peu peut-être comme Moïse qui passe et il se détourne pour voir le buisson ardent, un buisson qui tout d'un coup brûle et dans lequel il y a la présence de Dieu, la parole de Dieu. C'est un peu quelque chose comme ça aussi, regarder, s'ouvrir à ça. Et je crois qu'il y a aussi une bonne nouvelle là, c'est que c'est pas à nous d'être un peu comme dans, je sais pas moi, des Indiana Jones ou des Fort Boyard, soit des héros brisant les sceaux, découvrant les cachettes et les secrets. Non, on participe en l'accueillant finalement quelque chose d'immense et que ne peut faire que l'agneau. C'est-à-dire que Dieu fait pour nous en Christ. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que on sait bien que nos sens sont limités et que nous sommes comme une fourmi sur une tapisserie qui avons du mal à discerner le sens profond de la réalité. Donc on sait voilà, que Dieu nous aide dans ce dévoilement de la réalité, de la vérité.
Alors, qu'est-ce qu'on voit à partir du moment où on regarde l'agneau ouvrir le premier sceau, on voit donc un animal. Alors on va s'habituer à ces animaux, ce sont des chevaux, pardon, avec des couleurs différentes. Donc il y a l'idée que les couleurs viennent donner un petit peu la tonalité de ce qu'ils représentent. Alors le premier cheval, si j'ose dire, nous vient de Zacharie, dans Zacharie 1, dans Zacharie 6, il y a 4 chariots tirés par des chevaux de couleurs différentes. Et ce sont pour lui les 4 esprits du ciel qui s'en vont sur toute la terre. Donc effectivement, on comprend qu'il y a un partage du monde, en quelque sorte, hein, par ces chevaux, qui ont un effet sur le monde entier. Alors on va voir que ils n'anéantissent pas le monde entier, hein. Ils ont en partage une part de ce monde. Mais donc voilà, et on commence par le cheval blanc. Alors le cheval blanc, j'allais dire, c'est comme celui d'Henri IV, il a fait beaucoup parler de lui, parce que on s'est un peu déchiré sur le sens de ce premier cheval. Pour les uns, on retrouve ce même cavalier à la fin, dans Apocalypse 19, 11, et c'est donc le Christ lui-même au départ, qui tient une épée. Alors, à la fin de l'Apocalypse, il tient une épée, alors que celui-ci tient une arche. Alors, du coup... du coup, on peut se demander s'il y a des allusions historiques. Là, on part du côté de chez les Parthes, et donc, qui sont les seuls archers à cheval dans le monde ancien. Et puis, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe avec ce cheval blanc, on voit que le cavalier reçoit une couronne et qu'il sort en vainqueur. Donc, c'est une couronne Stéphanos, c'est la couronne du vainqueur qui n'est pas la couronne royale, le diadème. Donc, on n'est pas très sûr que ça puisse être le Christ pour cette même raison, c'est que précisément, ce n'est pas tout à fait le même cavalier blanc et il ne porte pas la même couronne. En tout cas, le premier cheval signifie le désir de la victoire, qui est en quelque sorte aussi une cause commune de la guerre. Donc on rentre plutôt dans un domaine guerrier que l'on ne va pas quitter avec les quatre chevaux en général.
Alors, la première bête qui ouvre finalement ce premier saut, qui fait sortir le cheval blanc, en fait c'est un lion. Voilà. C'est le lion qui ouvre le premier animal, le numéro 1 dans la liste. Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas le voir parce que c'est juste dans le chapitre avant en fait. C'est Apocalypse 4, non 4, versets 6 à 8. Donc le premier, c'est le lion, ça évoque la force qui vient de Dieu, finalement. Hein. Les quatre, c'est un peu des attributs de Dieu. Donc le premier, c'est la force, et ça correspond finalement assez bien à ce cheval. Alors, il a des qualités divines, comme tu le dis, c'est là que c'est ambigu, c'est qu'en fait, il est effectivement cheval blanc, c'est comme Ajax ammoniaqué, c'est quand même plutôt positif, marqué positivement, la blancheur, la couronne... l'arc aussi, on pourrait penser aussi à Dieu qu'à un arc en fait, puisque dans l'arc-en-ciel avec l'alliance avec Noé, Dieu pose son arc finalement, hein, ça fait l'arc-en-ciel, et il pose un arc pour bien se rappeler qu'il ne tuera plus les humains, même s'ils sont nuls, méchants, violents. Et donc l'arc-en-ciel, c'est comme un signe que Dieu se pose, se donne, pour bien se rappeler de ne plus jamais vouloir faire du mal à l'humanité. Donc je crois que là, il y a quand même une allusion qui est quand même très forte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, après ça, se dire, voilà, on nous annonce dans l'Apocalypse un Dieu qui vient, comme dans le déluge, envoyer une gigantesque chasse d'eau qui élimine tous les humains qui sont pas bons. Ça dirait le contraire. Dieu, il est un roi, effectivement, lui, il est blanc, si je puis dire, dans son côté... Sa bonté, sa perfection, sa pureté, ce côté spirituel, finalement, de la blancheur. Mais lui, son arc, il est posé à terre et pour bien lui rappeler qu'il n'est plus un Dieu qui tue l'humain, même coupable, même mauvais. Et puis, donc, qu'est-ce que ça peut évoquer, ce cheval blanc ? Moi, je crois plutôt que ça exprime, ça nous révèle un visage de notre humanité. Voilà. Qui nous est commun, qui nous est propre. Et donc, on se prend finalement pour des chevaliers blancs, on se prend pour peut-être des redresseurs de tort, on se prend peut-être pour des rois. L'arc, au lieu de l'avoir posé à terre en signe de paix, on le brandit, et donc on s'est dit que voilà, Dieu devrait être comme ça, donc nous on le fait aussi, voilà. Nous on est les bons, donc on peut tuer les méchants, voilà. contrairement à Dieu qui ne fonctionne pas comme ça. Donc on le sait depuis déjà quand même à l'époque du texte, déjà on le connaît depuis au moins 500 ans, depuis la date de rédaction de la Genèse. Et puis aussi ce qui se passe, c'est que comme tu le disais, il sort pour quoi faire? Pas pour, pour faire grandir le bien et puis pour enlever le mal sur la terre, non. Il veut être vainqueur pour vaincre. Donc il veut être vainqueur pour le plaisir de la victoire, quoi. Il veut vaincre pour vaincre. Et ça, c'est quand même un vrai problème. C'est un vrai problème parce que la visée finale n'est pas bonne. À la limite, on peut être chevalier et combattre contre le mal. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée quand même. Il y a de la misère, il y a de la pauvreté, il y a de l'angoisse, il y a des... Donc on peut combattre contre ça à l'intérieur de soi-même, dans notre monde aussi. Il y a du bien à faire avancer, c'est clair, et ça ne va pas sans combat dans un sens, mais... Mais enfin bon, donc là, c'est pour nous rappeler finalement. Et je crois qu'il y a là, oui, dans cette démarche, hein, il nous dit une voix tonnerre, viens, donc ça nous demande un petit déplacement quand même, c'est d'aller voir finalement, d'aller voir ce dévoilement, ce machin, de s'y rendre sur le lieu de cet orgueil qui est celui de l'humanité peut-être, non? Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Moi je verrais assez comme ça, voilà, se reconnaître et reconnaître notre visage là, nous prenons pour Dieu, nous prenons pour les chevaliers blancs. Quand est-ce que nos combats sont pour le simple plaisir de gagner, quoi? Pas pour le bien, pour le plaisir de gagner.
Oui, je pense qu'il y a là tout le sens des visions. Parce que donc, on va voir un à un chacun de ces chevaux. Et au fond, il faut aller regarder. Regarder pour se rendre compte, d'une certaine façon. Ça me fait penser un peu au portrait de Dorian Gray, où il peut voir un peu tout le mal et tout le vice, toute l'horreur de sa vie à travers le portrait. Et d'une certaine façon, lorsque le visionnaire vient voir en quelque sorte l'avenir, d'une certaine façon, le destin, enfin je ne sais pas comment on peut qualifier ces visions, il voit donc ces situations, il voit donc un vainqueur, un cavalier blanc, mais il voit aussi qu'il part pour la guerre. Donc, il y a en quelque sorte... Alors, il y a quelque chose toujours de très ambigu quand même dans ces apocalypses, ce qui fait que c'est très difficile à lire tout seul et que probablement, il faut se munir d'un ou deux bons commentaires. Et encore une fois, éviter justement ce que nos évangélistes dont nous parlions tout à l'heure pouvaient faire de manière un petit peu trop radicale, c'est de prendre un verset, vous savez, pour en déduire je ne sais quoi. Encore une fois, on est dans un texte qui est très complexe et, j'allais dire, tout ne prend sens que par rapport au reste. Ce qui est d'ailleurs vrai, l'Apocalypse ne prend sens que par rapport à l'Évangile, que par rapport à l'ensemble de la Bible. Et la tirer de son contexte et ne garder que cela n'aurait pas grand sens. Et donc, d'une certaine façon, peut-être que là, il y a effectivement tout l'orgueil de l'existence, y compris d'ailleurs du... Vous savez, si tu veux préparer la paix, tu prépares la guerre. Hein? Et donc, y compris du militaire, enfin de la force qui, si elle est uniquement employée comme force, ne peut servir qu'à égorger. Et l'ambiguïté, elle est dans ce passif. Et fut donné à lui une couronne. Parce que vous savez, on en a souvent parlé ici, le passif est d'origine divin. C'est un passif en général théologique. Donc, on peut quand même se demander si dans toute cette histoire, qui manipule qui? Qui lance ses cavaliers? Et dans cette histoire, est-ce que... Alors, il y a une façon de comprendre qui dit qu'en fait, il y a la colère de l'agneau, la colère de Dieu, et qu'elle se manifeste à travers les cavaliers de la mort, qui sont là pour semer toutes ces morts, etc., pour exécuter... un ordre peut-être d'origine divine. Alors c'est là qu'on peut s'embrouiller en effet et essayer de et tomber dans des histoires de vengeance, de colère, de jugement. Voilà. En tout cas là on a notre premier cheval. Il faut constituer notre attelage, si j'ose dire, des quatre pour voir un petit peu où tout cela nous mène.
Oui, mais c'est vrai, je crois qu'effectivement, tu as raison, que cette couronne qui lui fut donnée, à mon avis, c'est Dieu qui... Dieu nous a fait roi dans un sens, c'est vrai quand même. À travers ce pouvoir de créer, ce pouvoir de dire, ben moi je le veux, et contrairement à la volonté de Dieu, je fais ça, Et c'est vrai qu'il y a quand même ce côté incroyablement... L'homme est l'image de Dieu, par nature, en fait. Et c'est vrai qu'on a dans cette liberté, cette capacité de créer qui nous est donnée. On est fait un peu roi, quand même. Donc on nous donne une couronne, mais alors peut-être que il sort en vainqueur pour vaincre, ben peut-être qu'il sort de la volonté de Dieu, il sort du juste, il sort de la bonté, il sort de la bonne visée pour être uniquement en cours, tourné vers sa victoire. Voilà. Alors peut-être aussi à travers l'idée de la victoire, il y a aussi là peut-être quelque chose qui peut nous dire, mais en fait, qui nous fait nous rencontrer qu'on n'est pas toujours victorieux et que nos projets échouent et qu'il y a des échecs et que nous rencontrons l'échec. Peut-être aussi, on peut se dire, ben voilà, en définitive, peut-être que je ne suis pas le Dieu Tout-Puissant, quand même, quelque part, hein, et que je ne suis pas le vrai grand roi et que je crois que là, il y a le début de la sagesse. Si on évoquait le début de la Genèse, le péché originel, pas le péché originel, ce n'est pas le péché d'arrière-arrière-grand-parent dans le passé, là non plus, ça parle du présent. Le péché fondamental, c'est se prendre pour Dieu, je crois. Et c'est ça qui est évoqué aussi, à travers l'idée de « si je m'arme et que je pars au combat, je serai tout victorieux de tout ». Ben non, et non. On a des échecs dans notre vie, on a et notre salut, heureusement, ne dépend pas de nos seules victoires. Le salut vient de Dieu, et donc on a des échecs dans l'existence concrète, on perd son travail, on est malade, on a des échecs, je ne sais pas moi, des échecs sentimentaux. Donc voilà, le salut vient d'en haut et ce n'est pas tellement la question d'être tout-puissant. Et on peut faire le deuil de cette toute-puissance, je crois. Alors il y a un deuxième sceau, deuxième bête. Deuxième cheval, il est rouge. Alors tu avais quelque chose sur les chevaux rouges,
hein? Oui. Ah. Oui, moi j'ai cherché mes quatre couleurs là. La couleur rouge feu, oui, c'est assez facile. C'est Aïma, c'est le sang. C'est la mission de répandre le sang. Donc là, on est clairement, autant dans le cheval blanc, il y a cette ambiguïté, de quoi s'agit-il? La blancheur est plutôt réservée au sang. Autant le cheval rouge feu, c'est clair, hein, il lui est donné de ravir la paix de la terre et de faire que les uns et les autres s'entrégorgent. Et pour cela, on lui donne une épée, la Macaïra, l'épée romaine. Là, on arrive aussi à l'ambiguïté de la parole de Dieu, qui est tranchante comme l'épée, et on en arrive à des phrases assez étonnantes dans l'Évangile. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Alors, de quoi s'agit-il? S'agit-il de trancher? S'agit-il de la balance de la justice qui vient porter le... En tout cas, il y a clairement l'idée qu'il y a une mission d'égorgement. Et le cheval rouge feu correspond effectivement clairement à la guerre ou à la persécution. Et puis d'ailleurs, on trouvera au cinquième sceau les âmes des saints égorgés. Et d'une certaine façon, il y a comme un destin pour toute personne, encore une fois, qui épouse la cause du Christ, c'est quand même de finir sous le feu de l'épée, enfin, d'être passé au fil de l'épée, pardon. Donc, dans le rouge feu, on est dans le sang.
Alors, le deuxième animal donc, qui nous ouvre à cette expérience terrible, finalement, c'est un taureau. Le taureau, il paraît que c'est un signe de fécondité, voilà, en fait. Je ne sais pas, hein, mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit l'iconographie de l'époque, hein, de ces milieux du Moyen-Orient. Et donc, c'est la fécondité. Et, alors, effectivement, c'est un peu l'inverse, finalement, qui va se produire à travers ces ruisseaux de sang, à travers... C'est la vie qui se répand en vain. C'est le contraire, finalement, de la fécondité. C'est une fécondité négative, dans un sens. Alors, c'est vrai que la parole, c'est comme une épée. C'est-à-dire, c'est un pouvoir de discerner, un pouvoir de séparer les choses, hein, de distinguer, de discerner, voilà, entre le sec et le mouillé, entre la lumière et les ténèbres. La parole, c'est pareil, elle dit la vérité et c'est très créateur dans la Bible. La parole est comparée, oui, à une épée à double tranchant qui pique et qui tranche, voilà. Alors, cette épée, effectivement, cette puissance de la parole, elle peut être la puissance du cheval, elle peut être très créatrice, c'est le cas en Christ, c'est le cas par la parole de Dieu qui crée l'univers dans la Genèse, encore plus dans la parole faite chair, hein, qu'est le Christ. Mais ça peut servir aussi à tuer, à faire du mal, et ça aussi c'est quelque chose qui ne nous est pas tout à fait étranger, bien entendu. On se dispute souvent, et c'est vrai que la parole, à travers la parole, on a une véritable arme dans la bouche, on le sait bien. Alors là, ce qui est encore plus perfide finalement, c'est qu'il n'utilise pas tellement son épée pour trucider lui-même, mais pour mettre le bazar finalement. C'est quand même assez finement dit, parce que on pourrait dire, lui, il a les mains propres, il a rien fait, il n'a pas utilisé son épée, sauf qu'il a utilisé ses épées par ricochet, et c'est les autres qui vont s'égorger les uns les autres. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, ça nous fait sentir que oui, la puissance de la parole, et puis que Dieu nous propose à la suite du Christ d'être une parole qui est source de fécondité dans la paix. Une construction de la paix par la parole, et qu'il y a là une fidélité, une fécondité extrême finalement, par l'amour, par la parole de pardon, la parole de grâce. C'est quand même très très fort, je crois, cette fécondité de la parole, oui. Mais c'est plutôt en Christ, c'est plutôt avec Dieu. Alors ensuite, cette paix intérieure, je crois, parce que là souvent il faut le lire de deux façons finalement. C'est-à-dire qu'on peut mettre la guerre entre les humains, mais il y a aussi l'idée d'une paix intérieure. Est-ce que la parole, finalement, on pourrait dire ma pensée, ma façon d'interpréter, de vivre les choses, est-ce que ça va dans le sens de la construction d'une paix intérieure, d'une réconciliation des différentes dimensions de mon être, ou si au contraire, ça vient mettre du désordre à l'intérieur de mon être. Vous voyez ? C'est-à-dire que la parole, elle peut être créatrice ou elle peut être littéralement diabolique. C'est-à-dire diabolique qui éparpille, qui dilapide, qui déconstruit, qui engendre du chaos. Et c'est vrai aussi bien à l'extérieur. Avec quelques mots, on peut mettre un bazar terrible et des souffrances parfois terribles. Mais à l'intérieur de soi-même aussi, finalement, il y a des paroles qui nous construisent une paix intérieure et des paroles qui sont source de vie souffrante. Voilà. Non ? Alors, peut-être là, on se rejoint là-dessus avec la pensée, par exemple, du bouddhisme ou de l'hindouisme, avec le constat que l'être humain est tiraillé finalement, entre les différentes dimensions, on pourrait dire une dimension d'idéal et nos instincts profonds hein, qui effectivement font de nous des animaux furieux, dans un sens. Avec l'instinct de survie, l'instinct de protection de son territoire, ce sont des choses qui sont très utiles, je dirais, pour simplement pas se brûler sur la plaque de gaz. Mais c'est vrai que ça, si on fuit tout ce qui n'est pas tout à fait au top, tout ce qui nous fait un peu souffrir, eh bien, on va finir seul, finalement. Et il y a là quelque chose qui, effectivement, coupe la paix entre les uns les autres, alors que l'amour que nous propose le Christ, le pardon, le respect, la parole vraie aussi, qui peut dire à l'autre sa vérité, c'est quelque chose qui peut construire une paix, qui peut rassembler, qui peut... Et pour notre intérieur aussi, il y a quelque chose qui accepte les différentes dimensions de notre être, qui essaye de les domestiquer, de les orienter dans le sens du bien, d'une construction, non ? Je sais pas.
Alors, le blanc, le rouge, la couleur suivante, troisième saut, le cheval noir, mélasse, noir. Alors, là, on est passé, si j'ose dire, par la guerre. On arrive à ce qui suit fréquemment la guerre, c'est la famine. La famine, donc le noir pourrait signifier la végétation desséchée ou brûlée. Hein, et il est souvent question d'une balance pour peser les aliments. Ou pour représenter, bien sûr, l'injustice. Là, il est question d'une mesure de blé. Un litre de blé est suffisant pour une personne, mais pas assez pour toute une famille. L'orge, L'orge, c'est la nourriture des pauvres, alors que, en revanche, l'huile et le vin sont plutôt considérés comme aliments de luxe. Il faut noter d'ailleurs que l'olivier et la vigne, qui sont les deux origines, ont les racines les plus profondes et peuvent mieux supporter la sécheresse. Alors, dans tout cela, on voit au fond la condamnation hein, du luxe effréné, et là c'est Babylone. Dans Apocalypse 18, c'est Babylone qui est condamnée pour son luxe, pour le commerce d'huile, de vin, de blé. Et d'une manière générale, les chrétiens ne pouvaient pas appartenir à des associations commerciales qui impliquaient notamment de manger des viandes immolées ou de la débauche, comme à Pergame ou à Thyatire. Et d'une manière générale, ils étaient considérés comme pouvant difficilement gagner leur vie. Et d'ailleurs, plusieurs textes disent que les pauvres avaient plutôt tendance à se tourner vers la vie chrétienne. Dans l'Apocalypse encore, ceux qui ne portent pas la marque de la bête n'ont plus le droit ni d'acheter ni de vendre. Donc il y a tout le lien au commerce, il y a tout le lien au luxe, à l'argent, il y a toutes ces choses-là qui sont en fond d'horizon. Et là encore, on est non plus dans la guerre mais dans la famine, donc on est encore dans un contexte extrêmement difficile.
Alors moi j'ai le quatrième, le, la troisième, le, on est dans le troisième être vivant, la troisième bête, c'est là un visage d'homme, en fait, un visage d'humain. Là, on y reconnaît effectivement l'homme qui est un peu l'image de Dieu dans un sens, hein, puisque c'est presque l'inverse. Hein, mais l'homme, c'est une image, on pourrait dire, de l'intelligence, mais aussi qui cultive le sol, c'est-à-dire qui cultive ce qui est donné par Dieu pour en tirer des fruits avec l'aide de Dieu. Bon, mais c'est-à-dire, il y a l'idée de cultiver, de la culture. Alors, je verrais ça, finalement, bien là, un écho avec l'idée du grain, finalement, qui est produit. Effectivement, mais normalement, on devrait produire du grain pour nourrir. C'est-à-dire, là, effectivement, ça correspond bien à l'image de Dieu qui est source de nourriture, et en particulier quand on parle de l'agneau, par exemple, l'agneau pascal, puisque c'est bien de ça dont il est question. C'est pas l'agneau du sacrifice pour sacrifier à une divinité, pour l'amadouer, finalement, pour la rendre plus aimante et moins en colère. C'est l'agneau du sacrifice, là, de la Pâque. C'est un agneau pour que nous le mangions et que ça nous donne de la force pour se libérer de l'esclavage du péché, finalement, pour nous mettre en route dans le désert, pour nous mettre en route pour recevoir la parole, mettre en route vers la vie. Donc il y a l'idée d'un Dieu qui nous nourrit pour nous donner la force de cheminer, finalement, vers la vie. Alors que là, la culture, la nourriture qui est produite, ce n'est pas le but de nourrir pour que les gens soient plus en forme, qu'ils soient plus vivants, qu'ils soient mieux, quoi, qu'ils soient plus épanouis, plus eux-mêmes. Non, le but, c'est de gagner des sous, en fait. Et donc, je crois que là, c'est encore la visée qui est en cause. C'est-à-dire que le fait de se combattre comme le premier chevalier pour le bien, ok, si c'est uniquement vaincre pour vaincre, c'est un vrai problème. C'est un problème de visée, finalement. Là aussi, c'est un problème de visée. Si c'est pour simplement s'enrichir, être dans le profit, c'est un vrai problème. Alors, je ne sais pas, les spécialistes, moi je sais pas, j'ai vu ça quelque part, ils disaient qu'un denier pour une mesure, c'est exagéré, quoi. C'est vraiment du vol, quoi. Oui, c'est vraiment de la spéculation en temps de famine pour affamer le pauvre et se faire le maximum de sous avec la famine du pauvre. Et donc là, au total, ça conduit à la famine. Alors quand même, il y a une chose qu'on n'arrive pas à commercer, même quand on est un peu comme ça dans la vénalité, hein, c'est l'olivier et la vigne. Ça, je crois que c'est des signes que nous connaissons très bien dans la Bible. L'olivier, c'est le signe de... Ben, le Christ est souvent comparé à un olivier ou un double olivier, en fait. c'est combien, c'est Apocalypse 11 ou je ne sais plus. C'est-à-dire c'est celui qui produit de la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne peut pas faire commerce, la bénédiction. Elle vient de Dieu, elle vient de Dieu. On peut essayer de faire comme si on vendait de la bénédiction de Dieu, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et la vigne, ça représente peut-être aussi un peu le banquet messianique, c'est-à-dire vraiment la vie éternelle, le fait d'être en communion avec Dieu dans ce royaume, communion maintenant. Hein. Et donc ça, on ne peut pas non plus en faire commerce, cette intimité avec Dieu. On peut essayer de dire, venez dans mon église et vous serez en communion avec Dieu, mais si, il faut qu'il y ait quelque chose d'unique qui vienne de Dieu pour que ça marche. Ça ne peut pas simplement se vendre comme ça. On peut peut-être remplir l'église en faisant des menaces ou je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment cette bénédiction de Dieu, non, voilà, il y a Dieu seul qui peut la donner directement, ça se vend et ni s'achète. Alors on peut arriver au quatrième sceau.
Alors ça, c'est ma couleur préférée. C'est la couleur chlore, la couleur verdâtre, glauque, je dirais. Chlore comme un cadavre. En quelque sorte, là, on retrouve les trois premiers dans les résultats que cela peut donner sous la forme de la mort, de l'extermination. C'est-à-dire la persécution, là, captivité et mort. Alors on a deux personnages qui apparaissent, c'est Hadès, la demeure des esprits après la mort, qui suit toujours la mort. Donc il y a Hadès qui suit la mort. Et là encore, j'allais dire, on est dans tous les destins et toutes les peurs de l'homme, c'est-à-dire donc le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts, et donc qui passe par le fait de pouvoir tuer par l'épée, par la faim, par la mort, et pendant qu'on y est, par tous les fauves de la terre, c'est-à-dire tous les destins possibles et imaginables autour de cette mort, donc, et de cette couleur de cadavre. Donc j'allais dire, la boucle est bouclée.
C'est vrai que là, il y a une récapitulation des premiers, parce qu'il y a le pouvoir hein, de périr par l'épée, c'est le deuxième cheval, la famine, c'est le troisième, et la mort, c'est le quatrième. Donc il y a les quatre qui sont récapitulés là. Alors l'aigle qui ouvre le dernier sceau, c'est un symbole de la vitesse, de la hauteur, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi dans la Bible du rajeunissement. Je ne sais pas pourquoi, l'aigle était censé rajeunir. Et ça, on le voit dans plusieurs passages de la Bible, avec marqué « tu rajeunis comme l'aigle ». Je ne sais pas, c'était une légende sans doute. Hein. Et donc, c'est le contraire de la mort, finalement. Alors, peut-être, il peut y avoir une illusion, et ça, je trouve ça très moderne, si vous voulez, hein, de vouloir freiner aux quatre fers pour ne pas vieillir, alors que quelque part, on peut... Il y a une vraie beauté à vivre son âge, finalement, parce que chaque âge, bon, on peut avoir des rhumatismes, on peut, mais il y a une vraie beauté, finalement. On le sait bien, hein, par l'expérience que nous avons de personnes âgées. Moi, les personnes âgées qui étaient le plus humaines, les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées étaient des personnes âgées. Alors, il y a aussi des personnes âgées qui sont des vrais pots de vache, mais...
on n'en connaît pas.
Mais vraiment, pour être au top de l'humanité, il faut avoir vécu, c'est clair. C'est clair, ça, c'est incontournable. Donc, je dirais, l'illusion de l'éternelle jeunesse qu'il pouvait y avoir aussi à l'époque, hein, eh bien, c'est une mauvaise illusion, parce que finalement, en définitive, de toute façon, la mort est à l'œuvre. Et donc, il faut se rendre compte que Dieu est la source de la vie, et que la vie véritable, finalement, la vie qui peut grandir tout au long de nos décennies, c'est quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, quelque chose qui est de l'ordre du sens, quelque chose qui est de l'ordre de la bonté. Et à ce moment-là, oui, on peut rajeunir comme l'aigle intérieurement, c'est-à-dire être de plus en plus frais, de plus en plus en forme, de plus en plus vif, de plus en plus élevé aussi. Mais c'est clair que matériellement, le temps vient nous user. Alors, face à la question de la mort peut-être aussi, hein, de toutes ces famines, etc. Il y a une vraie question que nous pose l'athéisme, mais s'il y avait un bon Dieu, un Dieu tout-puissant dont on nous parle d'ailleurs ici, hein, c'est assez rare dans la Bible qu'on parle du Dieu tout-puissant, mais dans l'Apocalypse on parle du Dieu tout-puissant. Il y a beaucoup de passages de l'Ancien Testament où ça y est en faute, hein. Même dans le magnifique, dans Luc 2, il n'y a pas le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Il n'y a pas marqué Tout-Puissant dans le texte grec. C'est un mensonge du traducteur. Hein, c'est un peu choquant. C'est le puissant, mais on parle de toute-puissance à la fin des temps. Donc c'est une toute-puissance d'amour, une toute-puissance qui est en train d'advenir, si vous voulez. Hein, c'est donc important. Mais le Dieu, est-ce qu'il est tout-puissant? Il ne permet, non, si vous voulez, dans le temps présent. Si je tue quelqu'un, et je le tue malgré la volonté de Dieu, et Dieu est impuissant à avoir fait que cette personne meure. C'est dû à la liberté, c'est dû à ma méchanceté, c'est dû à mes bêtises, mon péché. Mais Dieu n'y peut rien, finalement. Il appelle, il crie, il envoie son esprit, et machin. Mais ça, je crois que c'est important quand même de le dire, que Dieu est innocent. Hein, il fut donné le pouvoir de faire des tas de catastrophes, de faire mourir les gens par les famines, par machin. Mais Dieu ne peut pas faire pleuvoir des pains comme ça, plump, devant le Biafré qui meurt de faim. Par contre, il peut attendrir notre cœur et puis faire que, bon, il y a largement de quoi manger pour tout le monde. Ensuite, bon, les solutions ne sont pas forcément simples, mais Dieu ne permet pas la souffrance. Hein, je veux dire, c'est constitutif, si vous voulez, de la liberté, de ce monde qui est encore en genèse. Ça fait partie du lot, si vous voulez. Mais Dieu ne le tolère pas. Il y travaille, et en particulier en Jésus-Christ. Il y travaille d'une manière particulièrement courageuse, engagée de la part de Dieu pour nous appeler justement à la vie et nous rendre compte en quoi il y a une façon d'être où nous nous prenons pour Dieu qui en fait est source de mort terrible, de souffrance et d'injustice. Voilà. Et donc je crois que dans ces quatre sceaux, dans ces quatre animaux, ces quatre illusions d'être Dieu, il peut y avoir quelque chose qui nous permet de voir en même temps le trois de Dieu finalement. Hein, c'est vraiment que oui, en Dieu, en Christ, il y a... la vraie force, il y a la vie, une vie éternelle, pas une vie qui s'use. Il y a une vraie fécondité, il y a une vraie, j'allais dire, une vraie humanité en Dieu. Oui, c'est ce qu'on voit en Christ. Oui, il y a un visage. Dieu prend le visage d'un homme, effectivement. Plutôt que l'homme se prenne pour Dieu, c'est quand même déjà un autre programme. Et donc là, il y a un vrai dévoilement, je crois, qui nous est proposé à travers cette méditation, finalement, de la souffrance de ce monde qui est en fait, qui ne trouve son origine que dans le péché. Bon, il y a aussi le péché de la nature qui est en cours de genèse, mais principalement là, ce dont il est en question, c'est le péché de l'homme, bien sûr.
Alors donc, les quatre premiers sceaux concernaient plutôt le péché de l'homme. Le cinquième sceau est en rupture. Il n'y a plus de cheval, il n'y a plus d'animal. Et là, on arrive à quelque chose d'éminemment spirituel. On arrive au témoignage, le martyr, Marturion, le témoignage de toutes ces âmes qui ont été immolées à cause de la parole de Dieu. Et c'est justement tout ce que l'on disait en préambule, sur cette fameuse question, mais comment se fait-il que dans toutes ces tribulations et dans toutes ces turpitudes, dans tous ces malheurs, ce soit justement les justes qui ont été victimes? Ce sont tous ces témoins qui sont à leur tour agneaux immolés, victimes précisément de toutes les vicissitudes et catastrophes et terreurs dont il est question avec les cavaliers de l'Apocalypse. Donc d'une certaine façon, on a face à toutes ces perturbations l'interrogation de tous ces justes. L'interrogation que l'on trouve dans le verset 10, qu'il crie à voix grande, hein, « Jusque à quand le maître saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et la réponse, c'est le don de la robe blanche, en quelque sorte comme un baptême du royaume. Et on leur demande de tenir encore un peu de temps, jusqu'à ce qu'ils soient tous ensemble, tous les co-esclaves, hein, les termes grecs sont extrêmement durs, tous ceux qui ont été serviteurs des serviteurs, tous ceux qui ont été esclaves et frères, et qui ont été, et c'est leur destin, tués, comme eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, une... Oui, un tragique, une tragédie de l'existence qui veut que justement ces témoins lorsqu'ils obéissent à la parole de Dieu et témoignent de la vie du Christ, sont persécutés. Et là, on arrive directement à la fidélité jusqu'à la mort, la fidélité de toute une vie pour précisément accéder à cette blancheur, à ce statut assez étonnant. Alors avec le cinquième sceau, on a en quelque sorte les compagnons de l'agneau immolé.
Alors il y a quelque chose de très beau, bien sûr, hein, dans ces témoins de la foi, mais il y a du pas très beau non plus, finalement. C'est-à-dire que là, peut-être, on touche à une autre limite, finalement, de l'expérience humaine qui nous interroge, je dirais, tout autant, et particulièrement nous, qui sommes, je dirais, des bons chrétiens. Ça nous interroge aussi, parce qu'on peut se reconnaître dedans. C'est vrai que les quatre sceaux, c'était les problèmes de notre nature humaine, finalement, à travers le 4, le 5... On pense tout de suite à la loi, finalement. C'est le chiffre de la loi, c'est le chiffre de la religion, quoi, dans le contexte de la Bible. Le 6, on le verra, c'est plutôt le signe du matérialisme, avant le 7, qui est le signe de la bénédiction. Donc le 5, effectivement, c'est des gens qui ont côté très positif. Ils ont eu la foi de témoigner, de s'engager vraiment très profondément. Mais à quoi pensent-ils, finalement? Ils disent « jusque à quand ?» Il y aura vengeance de notre sang. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans l'égoïsme, finalement. Ils sont dans l'égocentrisme, ils sont dans l'impatience en disant « Mais quand est-ce que Dieu va venir me venger, finalement ?» Et ça, ça ne va pas, finalement. Ça ne va pas, parce que ce n'est pas ça, finalement, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est de penser aux autres. Et finalement, c'est de voilà, et c'est la grâce, quoi. Et donc là, finalement, il leur fait comprendre... D'abord la patience, la nécessité finalement que nous sommes dans un entre-deux. Et donc il y a une question de timing, on dirait en français, non, je crois. Je ne sais pas comment on peut le dire autrement. D'agenda, de calendrier. Donc il y a un temps et on est dans l'entre-deux. Donc on est dans un temps effectivement un peu inconfortable où, bien que sauvé, bien qu'ayant une robe blanche, bien qu'étant baptisé, bien qu'ayant quelque chose qui est de l'ordre de Dieu en nous, eh bien, nous sommes encore dans ce monde pétri de péché, de mal aussi, d'orgueil, on pense à nous, on pense à notre petit salut, on pense à... et voilà, on est dans cette contradiction, finalement. Et ça, je crois qu'on peut le prendre, j'allais dire... Ça nous ouvre les yeux aussi sur quelque chose qui nous concerne et qui nous permet de nous ouvrir aussi. Peut-être, non? Je ne sais pas. Alors, c'est ce que dit Jésus, on est à la fois dans le monde et hors du monde. Et lui, je dirais, puisque tu parlais d'incarnation, c'est bien ça, finalement. C'est ce paradoxe de l'incarnation, c'est-à-dire que nous sommes à la fois un animal qui vit sur terre et il y a quelque chose de divin en nous. Et donc il y a une tension qui peut être féconde, mais peut y avoir aussi l'idée de se dire, voilà, je vais me réfugier dans le tout de suite, totalement spirituel, totalement angélique, et du coup ça c'est un problème aussi. Ça aussi c'est un problème. Oui, le spirituel est une priorité, mais non, on n'est pas encore dans le royaume, totalement. Le temps n'est pas encore arrivé, il faut une patience où on est dans cet entre-deux, dans cette tension, et où on doit aussi... Eh bien, être avec nos compagnons de service, avec nos frères, qui, pour les accompagner, voilà. Non, je ne sais pas.
Oui, oui. Alors, du coup, eh bien, tu disais que...
Le sixième saut.
Voilà. On arrive au sixième saut. Dans le matérialisme, tu nous disais plus tôt, par rapport à la loi. Alors là, j'allais dire, on retrouve nos éléments classiques, hein, d'apocalyptique. Ceux que l'on découvre dans nos évangiles lors de la mort du Christ, hein, tous ces éléments cataclysmiques qui indiquent la fin des temps. Hein, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est Matthieu, hein, qui, dans les passages, vous savez que dans les évangiles, il y a toujours ce petit passage un peu...
D'apocalypse, oui.
D'apocalypse, hein. Encore une fois, c'est un genre qui transperce la Bible de part en part avant le Nouveau Testament et qui transperce aussi tout le Nouveau Testament. Il y a cette grande terreur, il y a tous ces jours du jugement en quelque sorte, hein, où c'est d'ailleurs très beau. Je ne sais pas comment vous trouvez la lecture, mais je trouve que le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune devient comme du sang. On voit les couleurs, on retrouve toutes nos couleurs, c'est très coloré. Les étoiles qui tombent, le figuier qui jette les fruits verts.
On retrouve ton verdâtre.
On retrouve toutes nos couleurs, oui. Il y a le sang, il y a le noir, il y a le vert. On a envie de dire vite le panache blanc, vite le Seigneur. Mais on a l'impression qu'il faut qu'au fond, tout ceci arrive pour que enfin. C'est comme une machine à laver, vous savez, il y a le tambour qui tourne dans tous les sens, puis ça va sécher, et après c'est bon, on arrive à la fin du programme. On a l'impression qu'on en est là, vous voyez, ça commence à faire du bruit, ça s'agite dans tous les sens. Il y a un peu tout cela. Voilà, alors, est-ce que c'est le grand jour de la colère? Est-ce que c'est le grand jour du jugement? En tout cas, là, on voit comment tout est trimballé, tout est mélangé, tout est secoué. Avant, j'allais dire, le silence, le calme, le retour, l'avènement. Donc, il y a quelque chose cosmique, spirituel, il y a un grand chambardement et tout est passé au tamis en quelque sorte.
Alors ces luminaires aussi, on les a dans la Genèse, hein, c'est les luminaires, voilà, qui sont créés au quatrième jour. Alors à la lumière, elle est créée, on le sait, hein, c'est la première chose qui est créée, c'est créée au premier jour, hein, que la lumière soit, la lumière fut, et ce fut le premier jour finalement. Donc cette lumière dont il est question au premier jour de la Genèse, c'est pas la même lumière que la lumière des luminaires, qui représente donc le soleil, la lune, les étoiles, ça représente la lumière physique. Mais la lumière qu'est Dieu ou qu'est Jésus-Christ, c'est une lumière d'un autre ordre, bien sûr. Et même les personnes qui prétendent lire la Bible au pied de la lettre, les plus fondamentalistes des fondamentalistes, quand on dit Jésus la lumière du monde, ils continuent à allumer des lumières, et qu'on leur dit mais alors vous lisez la Bible au pied de la lettre, comment ça se fait que ça, vous dites qu'il faut le lire au sens figuré? Ils disent oui, mais enfin bon, Jésus la lumière du monde, si, il faut le lire au sens figuré. Bah oui, toute la Bible finalement pose une question de savoir quelle interprétation on en donne. Là on voit que ces luminaires finalement qui représentent la lumière matérielle, ils pâlissent. Ils s'obscurcissent, ils deviennent comme du sang, ils tombent à terre, ils se relativisent, voilà. Et je crois que oui, effectivement, il est utile et bon quand même de ne pas tout confondre. Il y a une vraie lumière dans la science, par exemple. C'est lumineux, mais c'est une lumière quand même d'un autre ordre que la lumière qui est de l'ordre de la spiritualité, qui est de l'ordre de la foi, qui est de l'ordre de Dieu. Et il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que si on utilise la foi, la Bible, comme un livre de science, on se trompe. Si on prend nos catégories spirituelles comme étant des vérités scientifiques, ça pose un vrai problème de lecture fondamentaliste de l'Écriture. On se met à dire n'importe quoi. Inversement, si vous voulez, si on prend la science comme une vérité spirituelle, ça pose de vrais problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la science, par exemple, on prend un enfant trisomique. Du point de vue de la science, il n'est pas complètement pleinement humain, si je puis dire. Il y a un problème de chromosome un peu en vrac, si je puis dire. Il n'a pas les caractéristiques d'un humain pleinement développé, capable d'autonomie, de langage, de pensée abstraite, etc. Et pourtant, au sens spirituel, eh bien, il a la même valeur qu'un autre. Et on le sait bien pour des parents qui ont un enfant handicapé. Donc, si vous voulez, on ne peut pas tout mesurer à l'aune de la science. Il y a des vérités métaphysiques. Et pour ce qui est de l'ordre de la finalité, il ne faut pas que ce soit purement scientiste, il ne faut pas que ce soit purement matérialiste, c'est ce qu'on disait dans les premiers chevaux. Il faut qu'à ce moment-là, pour ce qui est de l'ordre de la finalité, ce qui est de l'ordre de la valeur, ce qui est de l'ordre de la justice, de l'idéal, de l'amour, il faut se baser sur d'autres catégories que le matérialisme. Et à ce moment-là, il faut effectivement que ce soit la lumière de l'amour, la lumière du Christ, de Dieu, qui viennent illuminer et que les lumières du simple matérialisme, eh bien, tombent à terre, je pense. Voilà, hein. Alors, il y a une autre luminaire qui est peut-être dangereuse qui tombe à terre. Hein, c'est assez subversif, hein, les figues vertes. Hein. Il y a les étoiles qui tombent à terre, bon, comme des figues vertes d'un figuier secoué par un grand vent. Alors, cela dit, on sait que les figues, c'était un comparé à la lecture de la Bible, dans la littérature rabbinique. Parce que une figue, contrairement à une pomme, si vous voulez, quand on prend un morceau de pomme, qu'on le plante en terre, ça fait un bout de pomme pourri, en fait. Sauf si on a la chance de tomber sur un pépin. Quand on prend un bout de figue, elle est complètement féconde, partout, où qu'elle soit. Le moindre petit morceau de bout de figue est fécond parce qu'il y a plein de petits pépins qui sont répartis entièrement dans la totalité du fruit. C'est pour ça qu'on voit Nathanaël sous le figuier. C'est pour ça qu'il y a le figuier stérile qui est maudit parce qu'il n'a pas de fruit, alors qu'il y a quelqu'un qui est affamé qui passe à son pied. Il ne faut pas y lire, si vous voulez, une colère de Jésus-Christ contre un pauvre figuier qui ne produit pas des figues hors saison. Il faut le comprendre, là aussi, comme étant quelque chose, une critique d'une lecture de la Bible qui ne soit pas vraiment nourrissante pour les gens, pour la personne qui est affamée de parole de Dieu, de sens, de fécondité. Donc là, il y a quelque chose de rigolo, voilà, c'est-à-dire que si on fait de sa propre lecture de la Bible un luminaire, sans compter sur la lumière qui vient de Dieu, on est comme un figuier vert qui est secoué par un grand vent, qui est secoué par le vent de l'esprit et qui fait tomber ses fruits. Mais c'est pour nous sauver, finalement. Alors souvent, on dit la Bible est la parole de Dieu. Mais c'est complètement faux, si vous voulez. La Bible, elle est la parole de Dieu quand Dieu le veut, si vous voulez. Elle est la parole de Dieu, bien sûr, quand on le lit dans un esprit de prière, quand le vent de l'esprit nous guide. Si c'est des figues vertes, on dit « Ah, voilà, j'ai des belles figues, mais nos figues vertes, elles sont sans fécondité. » Et à ce moment-là, il faut que le vent vienne, le vent V-E-N-T, vienne le vanner, le cribler ce figuier pour que les figues vertes tombent et qu'il reste peut-être des vraies figues. La Bible, elle n'est pas toujours parole de Dieu, on le sait bien. Par exemple, quand on en fait des lectures haineuses, des lectures qui asservissent les gens, qui leur font peur de Dieu, qui les... C'est une lecture qui, c'est des figues vertes, c'est-à-dire qui coupent l'homme de Dieu, qui le coupent de la grâce, qui le font se méfier de Dieu, au lieu d'ouvrir largement son cœur avec confiance à Dieu. Ça coupe d'une vraie prière, c'est-à-dire comment j'ai envie de prier, moi, un Dieu qui m'attend au virage, qui va m'envoyer des épreuves terribles, qui va me tuer. Non, je ne peux pas. Si on me dit que c'est un Dieu d'amour, ben peut-être à ce moment-là que ma lecture de la Bible, elle va me faire découvrir tout le salut que Dieu nous propose, nous offre. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et effectivement, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, au verset 14. Donc oui, au lieu de lire le sens de l'avenir, notre avenir, le sens des choses, en lisant dans le ciel, dans les étoiles, dans les augures, comme il le faisait, dans les oiseaux qui vont de gauche à droite, ou dans je ne sais pas quoi. Mais nos augures, on a les nôtres aujourd'hui, nos superstitions, nos lectures de l'avenir. Vous voyez, la crise, personne, et tout le monde l'avait prévu, n'empêche que Il y a un paquet de gens qui se sont fait avoir. Donc, oui, je pense qu'il faut lire, effectivement, à ce moment-là, ça, il y a une relativisation pour une vraie connaissance, hein, qui vienne d'une connaissance plus humble aussi, et qui vient... Alors, ce n'est pas du tout contre la science, contre l'intelligence, au contraire. Le projet, c'est bien du 7, c'est-à-dire c'est une saine harmonie où il y a la place pour le 4, il y a la place pour l'intelligence de l'homme, il y a la place pour la science, la place pour la psychanalyse, la place pour l'art, et il y a la place pour Dieu, et que Dieu vienne donner une vraie fécondité à cela. Et alors, oui, on voit, comme tu le disais, tout qui tremble et qui s'agite, il y a les rois, du plus grand roi au plus petit esclave, tous cherchent refuge en s'enfonçant dans le rocher. Donc en fait, ils cherchent le salut du mauvais sens, ils cherchent le salut toujours plus profond, toujours plus dans le matériel, toujours plus dans le terrestre, alors qu'il suffirait simplement d'accueillir, finalement, à travers cette révélation du sens, accueillir le... ce salut qui vient de Dieu, finalement, simplement regarder, voir et s'ouvrir à ce salut. Et donc, oui, c'est ça, je crois. Et puis, il y a cette question qui nous est posée à la fin, et je trouve qu'elle est une belle conclusion à ce dévoilement, hein. Le jour de sa colère est venu. Alors, ce n'est pas une colère, là aussi, négative, hein. C'est un jour de colère qui est saine, qui peut subsister, qui pourra subsister. Cette question, c'est une question fondamentale, hein, qui est, dès le début de l'évangile selon Jean, les disciples, ils entendent de Jean-Baptiste, hein, c'est chapitre 1 de l'évangile selon Jean, de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et il dit ça en montrant Jésus. Bon, les gens se disent, il y a là quelque chose qui est comme une Pâque qui nous est offerte, finalement, pour nous libérer. Alors, ils n'étaient pas, bon... Voilà, et ils suivent Jésus comme ça, voilà. Et Jésus se retourne et leur dit, qu'est-ce que vous cherchez? Bon, ça c'est quand même une hyper bonne question. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans la vie, voilà. Et ils disent, ben en fait, on voudrait voir où tu demeures, quoi. Et donc, qu'est-ce qui demeure dans cet homme, en Christ? Voilà, qu'est-ce qui demeure vraiment? Qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui est vrai? Vrai? Qu'est-ce qui est source de paix? Qu'est-ce qui est source de vie? Source de fécondité? Source d'une vraie force dans l'existence? Source d'une paix intérieure, d'une paix avec les autres, source de tout ce qu'on a vu de bon en négatif, finalement. Qu'est-ce qui subsiste? C'est la question que pose aussi l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, là, l'hymne à l'amour. Hein. Qu'est-ce qui demeure, quoi? Ben, y a trois choses qui demeurent, qui sont vraies, qui sont solides, qui subsistent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Voilà. Mais c'est peut-être l'erreur, effectivement, de ces cavaliers qui est notre erreur à tous, voilà. Mais alors finalement, bon, l'histoire se termine quand même bien à travers cette ouverture. Et puis peut-être, bon, je peux terminer par une blague. Parce qu'on ne voit pas l'ouverture du septième sceau, quoi. Parce que c'est un peu plus loin, c'est au début du chapitre 8. Il y a marqué, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors, les mauvaises langues, bon, je vais... disent que c'est la preuve que dans le paradis, il n'y aura pas de femmes. Bon, c'est ça, je crois que ce n'est pas vrai. Moi, je crois que plutôt, c'est la preuve qu'il n'y aura ni pasteur ni prêtre. Et que puisque c'est 10 heures du soir, ben, on va laisser un silence.
Merci pour cette fin apocalyptique. Un mot juste pour guerre et paix dans la Bible. Ben, on a vu ce soir qu'il y avait une façon très étonnante, hein. Vous aurez remarqué qu'on est presque un peu en dehors de nos textes habituels, hein, et que je pense que ce qu'on a entendu ce soir était une compréhension tout à fait personnelle de l'Apocalypse, et que si vous allez en lire des commentaires de ci, de là, je pense à celui de Jacques Ellul, par exemple, qui est tout à fait remarquable, mais il y a une littérature extrêmement abondante, vous découvrirez des choses très différentes, parce que il y a une façon de lire qui est évidemment assez personnelle. Mais je crois que c'est justement une très bonne illustration de la pénétration personnelle de textes de cet ordre qui n'ont évidemment pas, comme tous ces textes, une et une seule explication.
Oui, ça c'est vrai, c'est important.
Surtout pas. Donc, ce que nous avons dit ce soir n'est absolument pas exhaustif. Ça ne vous empêche pas d'avoir, un, votre propre compréhension et votre propre lecture, et deux, d'en découvrir d'autres au moins aussi riches. Mais je crois que ce soir, ça, c'était probablement une lecture plus personnelle encore que les lectures que nous avons faites jusqu'à présent et qui devraient nous inciter à poursuivre. Alors on se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire très exactement le 10 février à Saint-Eustache. Je vois la branche de l'amandier. Je peux vous prédire que ce sera plus irénique, plus doux, plus...
Il y a le chaudron aussi, la marmite
ça, c'est
bouillonnante.
Heureusement, il y a encore la marmite qui bouillonne. Très bonne soirée.